à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la région de Mopti, dans le centre du pays, vit aujourd'hui dans une insécurité presque totale. Pour trouver des solutions à cette situation, l'équipe chargée d'aider à la réconciliation veut se doter d'un plan d'action de 2 ans, nous dit notre correspondant sur place, Momodou Bokoum.
Cette rencontre entre les acteurs de la réconciliation nationale est un cadre d'échange et de proposition. Un cadre qui permet d'élaborer un document pour mieux maîtriser les actions futures. Ce plan d'action permet de bien préparer les acteurs de la réconciliation afin qu'ils puissent faire face aux défis qui les attendent, comme nous l'explique ici le président de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation nationale, Ali Campo.
L'élaboration de ce plan répond à deux objectifs. D'abord, une performance des équipes régionales pour maîtriser l'outil dans le domaine de la réconciliation et la cohésion sociale. Les conflits au niveau du Delta et au niveau de la zone exondée font que Mopti aujourd'hui est devenu l'épicentre de la violence au Mali. Donc il faut que les mécanismes de réconciliation, de recherche de paix soient un outil mieux maîtrisé par les acteurs que nous sommes. Le deuxième aspect extrêmement important, c'est de faire des projections sur 2 ans pour ne pas aborder le programme sur un pilotage à vue. Parce que plus vous avez un calendrier bien élaboré, une vision mieux étayée, ceci vous permettait d'avoir des résultats stratégiques importants pour que la paix et la tranquillité soient dans la région de Mopti.
La région de Mopti, il faut le rappeler, est une zone cosmopolite riche de sa diversité ethnique, culturelle et linguistique, appréciée de tous. Mais aujourd'hui, elle vit une autre réalité peu reluisante. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian s'entretient ce jeudi avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville et son homologue tchadien Idriss Déby Itno à N'Djamena. Le point avec Marie Benson.
Monsieur Le Drian a entamé une tournée dans plusieurs pays d'Afrique pour discuter avec certains chefs d'État de la situation de la Centrafrique. Il rencontre aujourd'hui le président congolais et le président tchadien, tous les deux médiateurs dans le conflit centrafricain. La France est intervenue en 2013 pour enrayer des affrontements intercommunautaires. Depuis, Paris a passé le relais à la communauté internationale et mis fin, en décembre 2016, à son opération militaire Sangaris. Mais de récentes violences font craindre un nouvel embrasement. La tournée de Jean-Yves Le Drian se termine demain avec un entretien avec Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine en Éthiopie.
Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont rouvert leurs frontières 6 mois après l'avoir fermé pour stopper le mouvement armé qui a tenté de renverser le président équato-guinéen Teodoro Obiangema. Notre correspondant Moki Edwin Kinzeka s'est rendu dans la ville frontalière camerounaise de Bibiline, où des contrôles stricts restent en vigueur. Nathalie Barge présente les grandes lignes de son reportage.
À la gare routière des Bébines, des hommes d'affaires camerounais et gabonais transportent des marchandises. Ephraim Moukwa, camionneur camerounais, se réjouit de pouvoir enfin retourner dans son pays.
Les gens sont contents, les taximans sont avec les clients, les bus sont avec le personnel qui doit voyager à Bata et les autres endroits, mais quand c'est fermé, il n'y a pas de mouvement.
Le Cameroun fournit des produits alimentaires, des matériaux de construction et des pièces détachées de moteurs à la Guinée équatoriale, qui, elle, livre des boissons et de l'huile végétale à son voisin. Rosalie Nava, femme d'affaires équato-guinéenne revenant du Cameroun, dit qu'il y a eu un grand mouvement de marchandises et de personnes à Ébébine ces 2 dernières semaines.
Vendredi passé, nous sommes entrés avec 9 camions. Nous avons fait 3 jours là-bas dedans parce qu'eux n'avaient même plus de marchandises. Ils nous ont ravitaillés, nous sommes sortis. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ça en train de bien se passer.
Madame Ava s'est plainte d'avoir été contrôlée 7 fois entre Bata et Ébébine par les militaires. Elle a indiqué que certaines personnes qui n'avaient pas leur papier d'identité ont été arrêtées. La Guinée équatoriale a fermé sa frontière avec le Cameroun le 24 décembre à la suite d'une tentative de coup d'État manquée. Le 29 décembre, les autorités équato-guinéennes ont déclaré avoir arrêté des personnes en possession de lance-roquettes, fusils et munitions se déplaçant vers la frontière camerounaise. De son côté, le Cameroun a déclaré avoir arrêté 40 hommes lourdement armés et renforcé la sécurité le long de la frontière de 280 90 km. Une mesure qui a paralysé les activités économiques des commerçants. Anderson Ketong-Kongue, responsable de l'unité administrative frontalière Ntembali au Cameroun, a déclaré que la décision de rouvrir la frontière avait été prise à la suite de réunions au cours desquelles les deux pays avaient reconnu que la menace contre la présidence d'Obiang Nguema était écartée.
Progressively, serenity, peace.
Progressivement, la sérénité, la paix, l'ordre et la discipline sont perceptibles le long de la frontière. Les autorités équato-guinéennes ont jugé par elles-mêmes qu'il fallait relâcher les échanges et nous pensons que si cela continue, les barrières seront complètement levées.
Il y a deux mois, la frontière n'était ouverte que deux jours par semaine et les déplacements étaient strictement contrôlés par l'armée équato-guinéenne. Mais aujourd'hui, ils sont permis quotidiennement avec des contrôle spontané par la police de chaque pays. À la tête de la Guinée équatoriale depuis 1979, Teodoro Obiang Nguema, réélu pour un cinquième mandat de 7 ans en 2016, est le plus ancien dirigeant d'Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué ce jeudi à Gitega dans le centre du pays la nouvelle constitution controversée adoptée le 17 mai par référendum qui lui ouvre la possibilité de rester en poste jusqu'en 2034. Pour l'opposition, l'adoption de cette charte fondamentale enterre définitivement l'accord de paix d'Arusha signé en 2000 qui avait instauré un partage du pouvoir politique et ethnique. La nouvelle constitution permet au chef de l'État, au pouvoir depuis 2005, de briguer deux nouveaux mandat de 7 ans à partir de 2020. Son texte, contesté en vain devant la Cour constitutionnelle par une coalition d'opposition, laisse par ailleurs les mains libres au président Nkurunziza, qui monopolise désormais tous les leviers du pouvoir exécutif. Soudan du Sud, la crise humanitaire dans ce pays en guerre est en train de s'aggraver dans des proportions alarmantes, a averti ce jeudi à Nairobi Jan Egeland, secrétaire général de l'ONG humanitaire Norwegian Refugee Council, très active sur le terrain. Deux ans après sa participation avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Concernant le conflit en cours, des efforts seraient faits actuellement pour organiser une rencontre entre le leader rebelle sud-soudanais Riek Machar et le président Salva Kiir. Claire Morin-Jibo nous en dit plus.
Des pourparlers vont-ils avoir lieu entre les grands rivaux Riek Machar et Salva Kiir au Soudan du Sud? Ateni Wek Ateni, le porte-parole du président Kiir, a déclaré qu'une rencontre entre les deux hommes devrait se tenir fin juin. Mais le SPLMIO, le mouvement de Riek Machar, a démenti ces propos, qualifiés de désinformation, tout en assurant que leur chef, Riek Machar, serait ravi de rencontrer le président Kiir au nom de la paix. Le président soudanais Omar el-Béchir avait offert mardi ses bons offices en proposant d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. Fin mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé les factions belligérantes de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 4 ans et demi. Cette guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et près de 4 millions de déplacés.
Pour terminer, le sommet du G7 se tient demain vendredi et samedi au Québec. Il devrait donner lieu à des conversations franches et parfois difficiles avec le président américain Donald Trump sur le commerce, a averti hier le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le point avec Morgan Guiriec.
Il va y avoir des conversations franches et parfois difficiles autour de la table du G7, particulièrement avec le président américain sur le commerce, les tarifs douaniers imposés à l'Union européenne, au Canada et au Japon, a dit hier le premier ministre canadien. Selon lui, les rencontres du G7 devront permettre des conversations directes, parler des préoccupations et chercher un terrain d'entente sur les grands enjeux. Donald Trump a décidé d'imposer à tous les fournisseurs des États-Unis de lourdes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, y compris à l'Europe, au Canada et au Japon, ses plus proches alliés. En réponse, tous ont décidé de saisir l'OMC et annoncer des mesures de représailles, comme également la Chine et la Russie. Hier, les Européens ont durci le ton en promettant d'imposer, à partir du mois prochain, certains produits américains comme les jeans, le bourbon et les motos.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.